Je voudrais que nous fassions cette lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5. Un texte que vous avez certainement dû lire plusieurs fois, une histoire connue de l'Évangile, croire pour se mettre en marche. Jean chapitre 5, verset 1er. Après cela, suite à un miracle que Jésus a fait avec un enfant, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et nous arrêtons la lecture ici. Amen. Je prie le Seigneur devant cette parole. Fais-toi connaître à nos cœurs, Seigneur. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de te découvrir, mais tu t'es montré, tu t'es révélé à nous. Tu n'es pas resté dans un lieu secret, caché. Et nous avons vu et nous avons connu que tu as visité le monde. Aujourd'hui, touche-nous parce que nous sommes un peu comme cet homme. Nous avons besoin de nous remettre en marche dans la vie, vers toi, vers les autres. Merci pour la parole que tu nous donnes en ce jour. Bénis et guéris et fortifie notre corps, notre âme, notre esprit à chacun en écoutant ton évangile. Amen. En avant pour aller à Jérusalem, c'est une fête. C'est une fête et quand on regarde bien l'histoire, on pense que c'est la fête de Pourim. Vous connaissez Pâques, vous connaissez Pentecôte. Vous connaissez Noël. Pourim, c'est une fête d'une délivrance. Les enfants d'Israël étaient menacés d'extermination grave. Et grâce à une reine, Esther, une reine juive, et la grâce de Dieu, eh bien, le peuple juif n'a pas été exterminé. Alors, tous les ans, on fête, on rappelle la délivrance de Dieu donnée à Israël. On parle de cette fête au passé. Je crois que nous devons parler de Dieu au présent. Parce que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et le Seigneur fait toujours des délivrances envers ceux qui l'appellent et qui ont besoin de lui. Amen. Jésus est à Jérusalem, donc c'est la fête de Pourim. Il va aller dans ce lieu où il ne va pas rencontrer des grands, des sages, des forts. Il va rencontrer dans ce lieu désolé, ce lieu sinistre. Il va rencontrer un asile où des gens sont entassés, peut-être par dizaines, par centaines. Des aveugles, des infirmes, des gens malades, contagieux, des paralytiques. L'Évangile a un mot pour le paralytique, c'est pas paralytique, c'est desséché, des gens desséchés. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus de vie, comme une feuille morte. Ils sont à même le sol, ils couchent sur le sol. Ils ne sont pas attirants, ils sont certainement sales, sont en tous les cas méprisés, ils se cachent, ils sont pas beaux à voir. Regardez bien dans cette ville sainte de Jérusalem, la ville de Dieu, dit la Bible. Il y a dans cette ville un endroit qui est comme une vallée de la mort, un endroit de détresse, de désolation. Il n'y a que la façade qui est belle. La piscine, comme notre piscine Saint-Georges, qui est jolie. Il y avait sur la piscine un nom, Bethesda, maison de la miséricorde, maison de l'amour. C'est beau, hein? Il y a parfois dans la vie des belles étiquettes, mais derrière l'étiquette, il n'y a pas grand-chose. Et derrière cette belle étiquette, il y avait la désolation, il y avait des gens qu'on ne prenait pas en charge. C'était terrible à cette époque, au temps de Jésus, de naître ou d'avoir un handicap. Comme ce paralytique, depuis 38 ans. Parce qu'il y avait une conception dans les mentalités qui dit handicap, qui dit paralysé, desséché, hein, signifie punition de Dieu. Même les apôtres ont été touchés par cette maladie du soupçon. Et devant un aveugle, ils ont dit, mais il a péché pour être aveugle, pour être né aveugle, ou ses parents ont péché. Il fallait toujours qu'on ramène l'handicap à un responsable. Alors regardez comment ces gens étaient malheureux et combien ils étaient culpabilisés. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que mes parents ont fait? Ou mes grands-parents, ils vivaient dans cette accusation permanente et ils se cachaient, ils se considéraient comme des punis de Dieu. Jésus est entré dans cette piscine, enfin dans ce lieu-là, dans cette maison au portique. Il est entré certainement avec ses apôtres, peut-être aussi pour leur montrer que le Seigneur ne regarde pas les gens comme on les regarde nous. Et le Seigneur n'exclut personne, ne rejette personne. Il est venu, il a donné sa vie, il est mort pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je rentre avec vous dans cette piscine, Bethesda. Ce n'est pas les Jeux Olympiques. Hein. Ce ne sont pas les gens comme on voit à la une des journaux, des magazines, fort, élégant, souple, etc. Là, c'est vraiment des gens qui sont sans force, mais qui peuvent nous apprendre quelque chose. Toujours été impressionné par les Jeux paralympiques. On voit des handicapés avec leurs fauteuils roulants qui vont à une vitesse extraordinaire. On connaît tous des gens handicapés qui nous apprennent des leçons de courage, des leçons de persévérance, de gentillesse, d'amabilité. Cet homme est là depuis 38 ans, vous imaginez. Un infirme desséché dans son âme et dans son corps. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous savez, on est tellement pris dans notre société à la course aux affaires, aux plaisirs, aux joies faciles, aux rires. Il y a beaucoup de rires aujourd'hui. Hein, qu'on en oublie de regarder ceux qui sont complètement en panne. Au bord du trottoir, même dans la famille parfois, il y a des gens avec lesquels on n'a pas de conversation. On ne leur parle pas parce qu'on les sent différents. On les exclut. Je pense que cet homme-là était certainement bien marqué dans son corps, dans son visage, après 38 ans, couché sur un grabat. Vous avez remarqué comme il y a de plus en plus un grand fossé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas ? Entre les riches et les pauvres, ce sera de plus en plus. Il y a un grand fossé entre les forts et les faibles. Mais que nous fassions bien attention, si nous mettons des fossés entre nous et les faibles, nous mettons un fossé entre nous et Dieu. Parce que derrière chaque personne, il y a le Seigneur qui appelle. Il y a des fossés, on est entouré de fossés. On ne se mêle pas avec tout le monde. Mais le Seigneur jette des ponts sur les fossés. Il nous assiège, il nous appelle, il veut nous toucher, nous atteindre. On rentre dans la piscine ? Ça fait déjà trois fois que je le dis. On rentre dans Bethesda, et là, on va découvrir cet homme désespéré. C'est une piscine qui jaillit de temps en temps. L'eau jaillit. Effectivement, on a découvert à Jérusalem plusieurs endroits où il y avait des piscines intermittentes. Des piscines thermales, de l'eau thermale, de l'eau thérapeutique. On est content en France, on a quand même Vittel, Contrexéville, ça c'est en France, hein. Volvic, Vichy. On a quand même de la chance d'avoir de l'eau. Oh, à Vichy, j'étais surpris. J'étais un jour à Vichy avec une rencontre de pasteurs et là, je me suis dit, il faut que je boive ma bonne dose d'eau de Vichy. On m'a dit, faites attention, prenez-en qu'une cuillère à café, parce que sinon, vous allez être sans force, vous allez être démonté dans votre santé. Comme quoi ? Alors, j'ai pris ma cuillère à café d'eau de Vichy. J'en ai ramené une bouteille que je n'ai pas pu voir, voyez-vous ? C'est étonnant. Alors, il y avait cette eau-là à Jérusalem, cette eau thermale, cette eau thérapeutique, mais ce qui nous m'étonne beaucoup, je vous l'ai déjà dit, c'est que ce n'était pas la foi qui était demandée aux gens en disant « croyez-y », c'était la force. Le premier arrivé, il est guéri. Hein ? C'était la force. Jésus n'a jamais fait de commentaires sur cette piscine et sur cette histoire. Ni les apôtres, ni les prophètes, ni les pères de l'Église. On n'a jamais eu de commentaires sur cette eau qui jaillit et qui guérit le premier arrivé. Le premier arrivé, pas le deuxième. C'est comme au Tour de France. Tour de France, je suis toujours malheureux pour le deuxième, pas vous. Parce que ça se joue à 3 secondes près. Hein. Premier, il a tous les honneurs. Deuxième, bon, c'est fini, il est éliminé. Et là, dans la piscine, c'était un peu ça. Le premier qui va, il est guéri. Le deuxième, tant pis, excusez-moi, vous n'êtes pas guéri. Alors, qui étaient les premiers ? Ben, le premier, c'est certainement pas un aveugle. Hein, parce que le temps qu'il se lève, qu'il demande où c'est, c'est pas un paralysé. Hein. C'est pas quelqu'un à qui il manque une jambe. C'est pas un contagieux qui va mal, qui a de la fièvre. Premier, ben, je vais vous dire, c'est un jeune de 20 ans qui est en pleine forme, puis qui a une petite douleur dans le pied. Lui, il arrive tout de suite. Hein. Mais celui qui a 38 ans de maladie... Alors voyez-vous, cette histoire, elle nous montre une injustice. Elle nous montre le désespoir même devant certaines croyances humaines, où il y a de l'injustice. Et puis ça nous montre le manque de miséricorde de Bethesda, la maison de la miséricorde. Dans cette maison, premier arrivé guéri, deuxième à 3 secondes près, tant pis, excusez-moi, repartez chez vous, vous n'êtes pas guéri. C'est terrible. Mais pourtant, moi je crois dans cette eau. Je crois que cette eau est efficace, comme nos eaux en France, mais il n'y avait rien de surnaturel, c'est une eau qui apporte quelque chose certainement aux muscles, à la respiration, je ne sais pas. Mais sur cette eau-là qui jaillissait a été construite une légende, une histoire, et même dans beaucoup de vieux manuscrits de la Bible, ces versets ne sont pas inscrits. Une histoire qui nous fait comprendre aussi quand même l'attente de ces gens. Si ce n'était pas écrit, on ne comprendrait pas l'attente. Ils attendaient l'ange qui devait descendre et qui devait remuer l'eau, parce que l'eau qui jaillissait, on disait c'est un ange qui remue l'eau. Jésus est allé dans ce lieu païen. Le Seigneur ne rejette pas les gens qui sont prisonniers de sectes, de légendes, de croyances. Il les appelle, comme il m'a appelé, à la vie, à la libération. Il ne les rejette pas comme cela. Mais Jésus n'a pas dit à ses apôtres, « Bon, écoutez, mes frères, jetez tous ces gens-là à l'eau. » Parce que moi, je vois bien Pierre et Jacques et Jean, allez, on prend le paralysé et hop, à l'eau, il est guéri. Il n'a pas dit cela. Je le vois plutôt Jésus allant de malade en malade pour réconforter, valoriser, redonner de la foi, de l'espérance à tous ces gens qui sont là depuis des années, des mois. Et ce qui m'a étonné dans cette histoire, c'est que personne n'a crié vers Jésus, « Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi !» Personne ne crie vers Jésus. On a l'impression que Jésus, il ne le voit pas, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et quand on ne connaît pas Jésus, on ne l'appelle pas. Et quand on le connaît, on lui confie sa vie. On l'appelle au secours pour la famille, les enfants, le foyer, tous les jours. C'est un inconnu pour Bethesda. Tout le monde regarde l'eau intermittente, tout le monde regarde la fontaine qui va tout à coup, qui va jaillir, mais personne ne regarde la source de vie. Regardez parfois comment on se trompe. On attend notre bonheur de la chance et on ne regarde pas Dieu qui nous donne toutes choses pour notre bien. Pas tout. Il ne va pas nous donner des choses qui peuvent nous tuer, mais il nous donne des choses pour notre bien. Alors il va s'approcher d'un homme paralysé, là, couché sur, sur sa civière, sur sa natte. Il va aller vers cet homme qui est là depuis 38 ans. Ce qui m'a encore surpris dans cette histoire, c'est que cet homme, il n'est pas en révolte contre l'eau. Il n'est pas en révolte contre Dieu. Parce que il aurait pu maudire même Dieu et maudire les hommes qui l'entourent, parce que personne ne lui a tendu la main. Quel âge il a, cet homme ? 38 ans paralysé, mais il n'est peut-être pas venu quand il avait 2 mois. Il a peut-être 58 ans ou 68 ans, enfin c'est pas un tout jeune, tout jeune. Et pendant 38 ans, il n'y a personne qui l'a pris en lui disant, « Écoute, grand-père, enfin grand-père, c'est un jeune quand même, à 38 ans ou 48 ans, ou écoute, on va te laisser la place. On va te faire monter, on va te faire aller dans la piscine le premier aujourd'hui. » Personne n'a fait ça. Personne ne lui a tendu la main. Personne n'a dit, comme tu attends depuis tellement d'années, eh bien, on va te laisser passer le premier. Personne. Alors, il aurait pu crier contre la société. Il n'a pas dit non plus, cet ange qui remue l'eau, parce que c'est un peu là, tout le monde, ce que tout le monde croyait, cet ange qui remue l'eau, est-ce qu'il est aveugle? Est-ce qu'il est sans pitié? Il ne voit pas que je suis là en train d'attendre depuis 38 ans? Il aurait pu dire, est-ce que Dieu donne de la santé aux forts? Est-ce que Dieu prête aux riches? Non. Est-ce que Dieu s'intéresse qu'aux riches, aux forts, aux beaux, aux intelligents, et pas à moi? Il aurait pu en dire des choses, non? Cet homme, voyez-vous, pour moi, je pense qu'il semble résigné. Il est résigné. Rien contre l'eau, rien contre Dieu, rien contre l'ange en question, rien contre tous les gens qui passent dans la piscine, rien contre personne, il est dans la solitude, il baisse les bras. Jésus va vers lui, ému par son malheur, 38 ans, 38 ans d'attente, d'espérance déçue. Veux-tu être guéri? Question de Jésus. Veux-tu être guéri? Quelle question! Quelle question à un malade qui attend depuis 38 ans sa guérison? Veux-tu? Parce que, voyez-vous, avec la vie qui nous démolit, on pourrait perdre la volonté, l'envie, le vouloir. On ne veut plus rien, on n'attend plus rien. Veux-tu? être guéri. Jésus appelle son désir, sa confiance, sa volonté, son espérance qui est un peu morte en lui. Il va se dire, mais ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. C'est une parole terrible qu'on dit parfois. Veux-tu, parce que quand on attend pendant 38 ans, on peut tenter de se replier sur soi-même, de sombrer dans la dépression nerveuse, en disant le monde il est mauvais, il n'y a rien de bon dans le monde. Jésus réveille son cœur. Il entend une parole, je crois que pas beaucoup de gens lui ont adressé la parole, une parole qui s'adresse à sa situation. Jésus ne lui parle pas pour le réconforter seulement. Il lui parle en lui posant une question. Ça veut dire que le Christ veut entendre quelque chose de lui. C'est important de faire parler les gens, de les laisser parler. C'est important d'avoir avec les gens un dialogue. Avec cet homme qui ne parle certainement plus, il n'a peut-être plus de famille, peut-être plus d'amis, plus rien. Il est au fond du désespoir et quelqu'un se penche sur lui. « Veux-tu être guéri ?» Il répond « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Personne. Terrible. Hein ? Pas d'amis ? Les amis, c'est là qu'on les voit quand ça va mal. Pas de famille proche ? Pas de gens de bonne volonté ? Personne ne se soucie de lui. Je trouve ça tragique. C'est à en pleurer. Il est seul, abandonné de tous. Et Jésus est touché par cette détresse. Notre souffrance touche le cœur de Jésus. Il faut que vous le sachiez. Parfois, on ne peut pas le dire à personne, on ne peut pas le crier, ce n'est pas écrit dans West France. Notre détresse touche son cœur, même si il n'y a pas la prière. Même s'il n'y a pas la prière, même si on n'est pas parfait moralement, même si on n'a pas la foi, même si on n'a pas la foi, cet homme-là, il ne connaît pas Jésus. Jésus ne lui a pas dit, est-ce que tu te souviens de Dieu, de ton Créateur, etc. Et quand il va être guéri, il ne sait même pas qu'il l'a guéri. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Amen. Voilà l'histoire. Il est venu chercher ceux qui sont malades et perdus. Donc Jésus n'a pas répondu à cet homme qui a poussé un cri de foi. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Ce paralysé, ce n'est pas Abraham qui appelle Dieu. Ce n'est pas Moïse qui appelle Dieu. Ce n'est pas Élie. Ce paralysé, il ne dit pas un mot. Si, un mot. Pas pour dire « je crois », mais pour dire « je suis tout seul ». Jésus a répondu à un cri de désespoir. Je n'ai personne. Je pense que le Seigneur est touché par tous les gens qui désespèrent. Le cri des lépreux dans l'Évangile. L'enfant Ismaël perdu dans le désert. Il a entendu les cris de l'enfant. Les larmes de la veuve de Naïn qui pleure sur son fils unique qui vient de mourir. Et elle va l'enterrer. Jésus entend le cri des cœurs. Cet homme ne pouvait pas aller vers Jésus. On ne lui a certainement pas indiqué que le Sauveur était là. Jésus va venir vers lui. Ce n'est pas nous qui allons vers Jésus, c'est Jésus qui vient vers nous. Nous sommes incapables de construire un pont pour aller vers lui. Lui, il vient avec la croix. Et Jésus va se pencher sur lui comme le bon berger. Il va lui parler à son cœur. « Veux-tu être guéri ?» Ça parle au cœur d'un malade, ça. Il va pas lui parler de l'actualité, des Jeux Olympiques. « Veux-tu être guéri ?» Ce qui m'a surpris, c'est que Jésus ne donne pas un ordre pour qu'il soit guéri. Il ne dit pas « Sois guéri !» Et là, il était guéri, évidemment. Il dit « lève-toi. Lève-toi. Autrement dit, le paralysé pouvait dire, mais oh, comment je vais faire? Je ne me suis jamais levé. Jésus fait appel à sa confiance. Pour que le paralysé dise, s'il me demande de me lever, c'est qu'il a quelque chose à me donner. Il fait appel à sa confiance, parce qu'il ne s'est jamais levé. Lève-toi, prends ton lit. Ça veut dire, tu as la force de le faire. Je vais te donner la force de le faire. Prends ton lit pour que tout le monde voie d'où tu viens, de quelle misère tu viens. Ne sors pas inaperçu là, en cachette. Il faut que tout le monde voie que Dieu a délivré son peuple, les enfants d'Israël qui étaient menacés d'extermination, mais que Dieu délivre toujours les enfants d'Israël et les hommes de toute la terre. Amen. Il pardonne, il guérit, il relève, il est le sauveur de l'humanité. Il faut que les gens le sachent. Prends ton lit et va dans ta maison. Mais pourquoi Jésus n'a pas guéri tout le monde? On me pose toujours la question. Comme si j'avais des réponses toutes faites. Mais pourquoi Jésus n'a pas guéri tous les autres, là, les paralysés, les aveugles, lui qui a tant de pitié pour les aveugles, les malades en grand nombre couchés par terre, là. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas guéris? Mais Jésus, avec ce malade qui sort avec son brancard sous le bras, Jésus fait signe aux autres. Vous comprenez? C'est comme si cet ancien paralysé disait à tout le monde, regardez, Jésus guérit, Jésus remet en marche, Jésus remet dans la vie, Jésus est la force dans les faiblesses, Jésus est l'inattendu dans le désespoir, Jésus est venu, il est là. Veux-tu? Je n'ai personne. Vous pouvez méditer sur ça. Le paralysé ne dit même pas « aide-moi à me lever ». Voyez-vous, il ne dit même pas ça. Je vais le faire, mais il faut que tu me donnes la main. Même pas. J'ai l'impression qu'il ne demande rien, le paralysé. Vous savez, quand on a été 38 ans sans avoir un coup de main de quelqu'un, je pense que on n'a plus confiance en personne. Quand personne nous regarde, quand personne nous tend la main, j'ai l'impression qu'on doit se replier, on est convaincu qu'on n'est pas du tout intéressant, on est convaincu qu'on n'intéresse pas la société, que notre solitude, c'est notre vie, et que finalement, eh bien, il faut s'en contenter comme ça. Il ne demande pas « aide-moi, relève-moi, je n'ai personne ». Il y a des gens qui ont ce sentiment-là. Quand on n'est pas aimé, on a l'impression que on n'est pas bien. Quelque chose en nous qui gêne tout le monde. Voyez-vous, cet homme, en relisant cette histoire, il m'a fait penser à tous les paralysés d'aujourd'hui. Je pense à ceux qui ont le sentiment de ne pas avoir de place dans le monde. Ceux qui envoient des centaines de CV qui n'ont jamais de réponse. Ceux qui attendent de fonder une famille qui ça n'arrive jamais. Il y a des gens paralysés dans ce monde de compétition, justement. Oui, parce que là l'histoire, c'est la compétition. Premier arrivé. Et dans notre monde, c'est une compétition. On a le sentiment d'être toujours, toujours abandonné sur le côté. On n'arrive jamais à temps, jamais à l'heure. Sommes paralysés parfois aussi par des murs de méfiance. La méfiance nous paralyse. Le chagrin nous paralyse. Le deuil inconsolable nous paralyse. Le péché nous paralyse. Le mal qu'on a fait à quelqu'un ou que l'on nous a fait, paralyse la culpabilité en nous qui nous travaille, qui nous taraude l'esprit, jusque parfois dans la vieillesse. La culpabilité nous paralyse dans la vie. Nous sommes des gens paralysés qui ont besoin de se mettre en marche par la grâce de Dieu. Et Jésus est venu dans nos lieux d'impuissance, dans nos lieux de désespoir. À chacun, il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu? Parce que, attention, il y en a qui vont peut-être dire non. Parce que quand on est guéri, qu'est-ce qu'on fait? Demain matin, on va au travail. On prend le métro ou le bus, et c'est parti, et il faut travailler. Il y a des gens qui ne veulent pas changer leur situation parce qu'ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas de changement dans leur vie. Ils préfèrent rester comme ça. Une religion simplement de morale, mais l'engagement vers Jésus qui est pourtant la vie, c'est la beauté de l'existence, ils n'en veulent pas, ils ont peur. Veux-tu être guéri? Peur du changement de vie. Lève-toi, lui dit Jésus. Jésus va faire de cet homme un sujet d'espérance pour tous ceux qui vont le voir. Quand il va rentrer chez lui dans le quartier, oh, il est guéri. Il va être utile aux autres. Et quand on est utile aux autres, on est bien dans sa peau. On reprend confiance en soi. On est plein d'encouragement. Dieu nous a créés pas pour nous mettre sur une île déserte, il nous a créés pour nous mettre en relation avec lui, avec les autres. Il est guéri, il se lève, il prend sa pauvre civière et il se met à marcher, et il marche, il va sortir de la piscine, il est content, amen. Il n'est pas guéri pour moi. Il n'est pas guéri. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire, vous ne trouvez pas? Est-ce que vraiment vivre, c'est seulement marcher? Est-ce que vivre, c'est courir, c'est danser seulement? C'est faire du ski sur les montagnes russes? C'est quoi vivre? Vivre, c'est être en relation, en rencontre avec Dieu et avec les autres. Et voyez-vous, il n'a pas se paralysé, il n'a pas rencontré celui qui donne la vie, Dieu. La foi, c'est pas seulement savoir qui est Jésus. Ça, on peut l'apprendre dans un livre. On peut même l'apprendre dans la Bible. La foi, c'est pas seulement dire « je sais qui est Jésus ». La foi, c'est être en relation avec Jésus. C'est pas pareil. C'est lui parler, c'est l'écouter, c'est s'abandonner en lui. Et cet homme n'a pas rencontré Jésus puisqu'il ne sait même pas qu'il l'a guéri. Il va le rencontrer un peu plus tard, dans le temple. C'est bien, il a été au temple. Il n'est pas devenu un homme simplement qui profite et qui repart dans le mal. Et Jésus, dans le temple, va lui dire « Attention, va et ne pêche plus. » De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ce qui veut dire, ne te sépare pas de moi. Péché, c'est se séparer de Dieu. C'est ça le péché. Péché, c'est abandonner Dieu, c'est vivre loin de Dieu, c'est vivre à côté de Dieu. Ne te sépare pas de moi si tu veux vraiment marcher et vivre vraiment ta vie. Je vous ai parlé tout à l'heure au début de la fête de Pourim. Cette fête qui rappelle comment le peuple d'Israël a été sauvé de l'extermination. Et je vous ai parlé de cet homme desséché. Hein, c'est le mot que l'apôtre Jean emploie, desséché. Ça me fait penser, pour conclure, au peuple d'Israël qui disait, dans la vallée des ossements, ceux qui connaissent la Bible, il disait « Notre espérance est détruite, notre espérance est détruite ». Ils étaient déportés, ils n'avaient plus d'espérance. Et Dieu dit, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous sortirai de vos tombeaux. Les tombeaux, c'était la désolation, la tristesse, le chagrin, le deuil, la mort. Je vous ouvrirai vos tombeaux, je vous en sortirai et vous saurez que je suis l'Éternel, le Seigneur. Ce qui veut dire, quand je vous délivrerai, vous ferez l'expérience de Dieu. On fait l'expérience de Dieu quand on reçoit sa guérison, sa délivrance, son pardon, quand on ouvre les yeux sur Dieu. Vous saurez que je suis le Seigneur. J'aime ce Seigneur. Il me comble de joie parce que il n'est pas sur les hauteurs, très haut, loin de nous, accessible qu'aux forts et aux riches et aux bien-pensants. Il est tout en bas, penché sur un paralysé qui devait sentir la transpiration, qui devait être peut-être mal rasé. Il se penche sur lui. Il se penche sur ceux qui sont tout en bas, désespérés, dans le péché, dans l'inconnu pour leur avenir et pour leur vie éternelle. Il se penche. Et quand il nous parle, il nous communique une énergie, une force. Nous émergeons. Sa parole nous donne vie. Et nous découvrons, en l'écoutant cette parole, qu'il a été jusqu'à mourir par amour. Peut-être qu'une maman mourrait par amour. Je le crois. Il y a des cas, des exemples. Je pense qu'un homme mourrait par amour pour son fils ou pour quelqu'un de très, 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 très bien. Mais Dieu, lui, il est mort par amour alors que nous étions des pécheurs, des insensés. Alors que notre cœur était complètement à l'opposé de lui. Il est mort par amour alors que nous étions ingrats. Comme le chat qui est tombé dans la citerne et qui a toute griffe dehors et qu'on ne peut pas prendre. Il est mort par amour pour des gens qui lui ont fait du mal. Mais ainsi, sa mort nous ouvre le ciel. Par sa mort, nos corps ressuscitent. Par sa mort, nos esprits ressuscitent. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Les paralysés, c'est nous. Nous sommes tous les paralysés de 38 ans. Il a fallu que Dieu descende et que sur la croix, il dise « Tout est accompli. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il prend notre place dans le dessèchement de la croix, dans la paralysie de la croix, dans la désolation de la croix, pour que nous cessions de vivre sans lui et que nous puissions le rejoindre dans un acte de foi en disant « Seigneur, viens dans mon cœur aujourd'hui. » Amen. Prions le Seigneur ensemble. Nous allons vers toi, Seigneur. Parce que le chemin est ouvert, parce que tes mains nous sont ouvertes pour nous dire « Venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, comme ce paralytique que tu as relevé, Seigneur, relève-nous et fais-nous aller dans la vraie vie, où la foi, l'espérance, l'amour de Dieu sont vraiment rois et règnent. Nous voulons, Seigneur, entendre cette parole qui nous a été laissée dans l'Évangile à travers cet homme, à travers les autres, des femmes, des hommes de toute situation. Et nous voulons te dire, viens, Seigneur, aide-nous à te suivre, à te faire confiance, à laisser nos mains dans tes mains. Pardonne nos offenses, enlève le mal qui est sur nos épaules, guéris-nous de nos désolations qui sont parfois interminables. Seigneur, fais cette œuvre de bonté, de relèvement, de libération, de lumière dans notre existence, nous qui sommes dans un siècle difficile. Seigneur, libère-nous. Amen. Merci Seigneur. Amen.